deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Inventer une histoire à partir de la sculpture de Camille Claudel, Les Causeuses. C'était la proposition faite lors d'un atelier d'écriture. Les Causeuses, ces quatre femmes nues, rassemblées comme pour se confier, ont donc inspiré les textes que vous allez écouter. Et si Camille Claudel s'était sculptée elle-même en train de causer avec quelques concurrentes? J'aimerais avoir une conversation avec vous trois, pour me sentir un peu mieux. Je suis Camille, je ne vis plus avec Rodin depuis des années. Mais vous, Rose, c'est différent. Vous êtes encore sa compagne.
Oui, Camille. J'ai passé ma vie avec lui et il m'a même épousée en 1917. Avant, j'étais juste son modèle. Il m'a représentée dans plusieurs sculptures, dont la jeune fille au chapeau fleuri. J'ai vécu avec lui quand il était encore pauvre, en Belgique et ailleurs. J'étais heureuse ainsi. Rodin ne m'a jamais quittée, même s'il dormait souvent chez ses maîtresses. Il tenait à moi. Je le savais. Pourquoi as-tu essayé de le changer, Camille ? Tous les modèles voulaient coucher avec lui, et toi la première.
Je sais bien, je le voulais pour moi toute seule. Je l'admirais plus que tout. Il a su développer mon talent. Pendant 15 ans, j'ai été son modèle, son élève, sa maîtresse et son aide. J'étais son égérie. Nous avons vécu une passion brûlante. J'étais l'élève amoureuse du maître et j'ai cherché à être la meilleure, partout. Pour l'égaler. Puis j'ai trouvé mon style, créé mes propres œuvres.
Et moi, Gwendoline, j'étais peintre et aussi écrivain. Il a fait de moi un portrait à l'antique admiré de tout ce qui trône aujourd'hui au musée Rodin. Je n'ai pas souffert de la séparation avec lui comme toi, Camille, car l'écriture est mon élixir de joie et elle me ressource. Contrairement à toi, Camille, je ne cherchais pas avec lui l'absolu.
Moi, je suis la dernière des causeuses. Je suis restée avec lui pendant 9 ans. Il m'appelait mon aristocratique Claude, car je suis duchesse. Je lui permettais de gagner de l'argent, à lui et à ceux qui l'entouraient. J'étais, à travers lui, amoureuse d'un monde que je ne connaissais pas, ne pratiquant aucun art. Après notre séparation, j'ai continué à fréquenter les musées et à collectionner les œuvres d'art. Tu n'aurais pas dû t'acharner à vouloir le changer, Camille. C'était souffrir sans espoir.
Je voulais qu'il renonce à sa vie d'artiste dénuée de morale. Ma famille, religieuse pratiquante, me montrait du doigt. Les lois de séparation de l'Église et de l'État de 1905 ont fait s'enflammer les passions et les moralistes. Ma mère a appris que Rodin vivait déjà avec une femme, toi, Rose. Ma mère m'a traité de catin et a menacé de me faire enfermer.
C'est un peu de ma faute, Camille.
Non, Rose, tu n'as pas à t'excuser. Tu vivais avec lui. Je le savais, mais je le refusais. J'ai toujours voulu que le monde s'adapte à moi. J'étais belle et talentueuse. Je commençais à créer dans mon atelier. Le monde s'illuminait pour moi. Je voulais juste qu'il signe un papier disant qu'il m'aimait et voulait vivre avec moi seule. J'aurais voulu être son unique modèle, sa seule source d'inspiration. J'étais aussi horriblement jalouse de toi, Gwendoline. Tu étais écrivain alors que je ne savais pas aligner 3 mots à la suite.
Ne dis pas cela, Camille. J'ai lu tes lettres Elles sont belles, bien écrites et pleines de la passion que nous éprouvons toutes. Mais l'événement dont Rodin a le plus parlé et qui l'a meurtri, c'est la sculpture de l'âge des reins. Un nu masculin tellement réaliste que Rodin a été accusé de tricher en mettant du plâtre directement sur le modèle. C'était évidemment faux. Il l'a prouvé en sculptant le même nu, mais de taille monumentale. Ce ne pouvait pas être une copie.
Tu as raison, Gwen. Il était tellement blessé d'être accusé de tricherie. Il a fait par la suite beaucoup d'œuvres monumentales, ou au contraire des réductions. Cette accusation le tourmentera toute sa vie. Il cherchera sans cesse à prouver ses qualités.
À moi, Claude, il a aussi parlé de sa souffrance. Il s'est confié à chacune d'entre nous. Celui que l'on voyait quelquefois comme un demi-dieu insensible avait des sentiments profondément humains. J'espère, Camille, que nos propos t'ont apaisé. On a toutes vécu, comme toi, une passion brûlante et dévorante qui nous a marqués. Mais dis-toi que l'on a eu la chance de côtoyer un artiste exceptionnel, comme il y en a un ou deux par siècle, avec ses qualités et bien sûr ses défauts. Et moi, je serai prête à recommencer. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa?
Dans la nouvelle qui suit, Camille Claudel ne fait pas partie du cercle. Les quatre créatures parlent de leur créatrice et de bien d'autres choses.
Et alors?
Ben, j'étais pas à l'aise.
Et maintenant?
C'est franchement mieux. Je peux poser mes fesses sur le banc. Avant, dans la version en plâtre, j'avais le popotin entre deux chaises, si je peux me permettre cette expression. Peut-être que ça lui paraissait plus dynamique, mais c'était pas confortable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
Moi, honnêtement, je me sens aussi bien mieux. Depuis, surtout qu'elle a ajouté ce paravent. Honnêtement, c'est plus intime comme ça, et honnêtement, on peut se dire tout ce qu'on veut discrètement. Ah oui, honnêtement, c'est mieux.
Et toi, Blanche, t'en penses quoi?
Je pense que Camille a dû hésiter longtemps. Elle en a fait 5 ou 6 versions avant celle-là. En plus, c'est vrai que son frère lui simplifie pas la vie. Il est bizarre, ce gars. Il l'admire, et en même temps, il a peur qu'elle lui fasse de l'ombre. Je crois qu'il est jaloux.
Jaloux de quoi? C'est son frère, pas son chaperon. Elle fait ce qu'elle peut alors qu'elle devrait faire ce qu'elle veut. En même temps, on peut pas laisser une femme faire n'importe quoi. Enfin, je sais plus, moi. J'ai la tête qui tournicote de temps en temps. Tout le monde me dit que je dois obéir à mon mari. Le maire, le curé, la loi, la rumeur. Et moi, j'aimerais bien être un peu plus indépendante. Vous avez entendu parler de Louise Michel, la pétroleuse de la commune? Voilà une femme qui m'impressionne. C'est vrai, quoi? Pourquoi c'est toujours eux qui décident? En plus, quand ils prennent enfin une décision, je veux dire, sur des choses importantes, ils disent que des bêtises. L'autre jour, tiens, pas plus tard que mardi dernier, mon homme m'annonce qu'il veut marier Lucienne. Lucienne, c'est ma fille. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, vous le savez déjà que c'est ma fille. Enfin bref, il veut la marier à un de ses amis, veuf depuis 3 mois. 3 mois, vous vous rendez compte? Et en plus à un vieux qui a 20 ans de plus qu'elle. Je sens que ça va dégénérer en drame quand Lucienne va la prendre et je sais pas comment je vais gérer ça, moi. C'est peut-être un bon parti. Enfin, je veux dire matériellement, ça, il est riche. Et noble en plus. Mais la richesse, ça suffit pas à rendre une femme heureuse. La noblesse non plus d'ailleurs. Ma fille va ruer dans les brancards, fière comme elle est. Je crois qu'il ne la connaît pas, sa fille, mon cher homme. À mon avis, il est pas encore au bout de ses surprises, mon Gaston. Ah ça, non, il est pas au bout de ses surprises. Je vais lui faire sa fête à mon Gaston et je vais lui...
T'énerve pas, Léontine, du calme. On n'est pas bien, là? À causer tranquillement toutes les quatre? Mais toutes nues, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils ont, tous ces sculpteurs, à nous déshabiller chaque fois qu'ils veulent nous figer dans le marbre. Moi, je trouve cela plutôt désagréable. C'est quand même une drôle de manie chez eux. Et la Camille, elle fait tout pareil. Si douée qu'elle soit.
Bah moi, ça ne met pas particulièrement non plus à l'aise d'être toute nue, là, exposée aux visiteurs. Ça ne vous gêne pas, vous? Normalement, quand on se trouve pour papoter chez l'une et l'autre, on s'habille. On fait même des efforts pour enchérir sur nos toilettes. Exhiber nos bijoux, avec, je vous le confie, mais ne le répétez pas, une petite pointe d'orgueil quand je sens vos regards envieux.
Sûr qu'on ne va pas se gêner pour le répéter. C'est vrai qu'elle en rajoute toujours celle-là. Comme si elle était la vitrine ambulante de la fortune de son mari. Une parvenue. Je l'aime bien, mais c'est une parvenue.
Chut, elle a l'oreille fine. Qu'est-ce que vous disiez, les filles ?
Rien. On comparait nos dentelles. Enfin, façon de parler, car toute nue, il n'y a pas vraiment grand-chose à comparer. Nous échangeons des souvenirs d'enfance.
Arrêtez vos messes basses, petite hypocrite. Deux brunes, une blonde, une rousse, les unes aux cheveux raides, l'autre frisée, j'en passe des meilleures et vous m'affirmez de sang-froid qu'il n'y a rien à comparer ? Vous croyez que je vais gober ça ? Moi, je m'en moque de toute façon. Je me trouve avenante, sauf votre respect, très belle même, alors que ce soit habillée ou toute nue.
À propos, tu l'appelles comment ?
Ben, ça dépend. Madeleine dit foufoune. Ma cousine, Minou. Moi, petite fleur.
Je ne te parle pas de ça, je te parle de Camille.
Ah, Camille ! J'hésite. Comme c'est elle qui nous a créés, j'aurais bien opté pour Dieu, mais comme c'est une femme, je ne vois pas de féminin à ce Dieu-là. Alors, le plus souvent, je dis Camille, ou bien tout simplement elle.
Et son choix final, vous en pensez quoi ? L'onyx et le bronze, ça vous plaît ?
C'est toujours mieux que la version en plâtre où j'étais en équilibre instable.
Il paraît qu'elle a fait aussi une variante tout en bronze.
Plusieurs versions si j'en crois ce que j'entends parfois.
Chut, les filles, chut, taisez-vous. Le musée ouvre ses portes. On reprendra notre conversation cette nuit quand les femmes de ménage auront terminé leur travail.
Plus de Camille, ni de Claude dans le texte suivant. Les héroïnes sont anonymes. Et bien lourd le secret qu'elles se disent au lavoir.
Elle l'avait dénoncé, les quatre femmes du lavoir. Elles avaient chuchoté toute l'après-midi, songeuses et soucieuses, assises en cercle sur les bancs de pierre, à l'ombre de la toiture. Le linge attendait dans les paniers le moment d'être rincé, battu, essoré, avant d'être mis à sécher. À l'abri des regards, leurs corps penchés les uns vers les autres, serrés, ondulés au rythme des murmures, dans un élan de compassion. Leurs visages tendus et les traits creusés, des chapelets de son léger émanaient de leurs silhouettes fragiles. Elles portaient dans les plis de leur peau blanche et ferme, les peines et les joies de leur âme. Les courbes des jeunes femmes étaient leur force et leur vulnérabilité. Tantôt, elles se repliaient sur elles-mêmes, puis elles offraient une parole silencieuse qui se glissait sur leur front plissé. Les mains soutenant leur visage encore juvénile, elles échangeaient leurs certitudes et leurs tourments. Elles faisaient front comme elles le pouvaient, ensemble, à leurs dures conditions de femmes dans cette campagne rurale et composée avec leur quotidien. Les limites de la solidarité féminine ne pouvaient souffrir de ce crime. La dureté de leur sentence était la seule issue. La réprobation morale et la religion se dressaient, pire qu'une muraille infranchissable. Pourtant, elles se soutenaient pour trouver des recettes miracles, mettre un terme à des grossesses non désirées, voire même fermer les yeux sur l'abandon d'un nourrisson. Ma grand-mère était leur voisine. Elle partageait de l'affection et de la tendresse. Elles avaient pris le même bateau, celui de la rue de vie de paysans, ce début du XXe siècle, où la vie des femmes était aliénée à leur devoir de bonne épouse, et à la morale chrétienne. L'existence de ce nourrisson devait rester clandestine, et la coupable devait cacher sa faute. Elle était le déshonneur de sa famille, des braves gens honnêtes. Avec lui l'attendait la solitude, la précarité, le rejet, son existence scellant la fin brutale de la solidarité intergénérationnelle. Alors elle l'avait jeté dans le puits, désespérée et seule, pour ne pas sombrer dans la folie. Elle ne pouvait se résoudre à le chérir, ce petit. Il était et resterait la preuve terrible du supplice qu'elle avait vécu et de la violence barbare d'un homme. Elle avait perdu son honneur. Elle avait été répudiée après avoir purgé une lourde peine d'emprisonnement. L'indicible douleur de la jeune femme était la honte des siens. Sous la surface de ce qui peut être dit, subsistent les frémissements d'un monde qui n'appartient qu'aux ténèbres. Le train de Montparnasse roulait à toute vitesse et j'entrevois l'arrivée du vent d'ouest, le bleu de la Bretagne et les sentiers donnés de noisetiers. À cette heure matinale, je savoure le lever du jour sur la campagne, la brume couvrant encore à certains endroits les haies bocagères. Le calme et le silence, seulement troublés par l'ombre du visage de ma grand-mère, faisant ce voyage dans l'autre sens il y a bien longtemps, fuyant son pays, devenu indésirable et fautif. Elle me fixe et me sourit, son visage disparaît au travers de la lumière ou des arbres défilant le long de la vitre, pour réapparaître aussitôt, doux et apaisé. Je l'imagine, elle, ma grand-mère, tournoyée au-dessus des quatre paysannes, tentant de redessiner les traits et les postures, les suppliant de l'écouter et d'effacer son geste. Dans un dernier souffle de désespoir, elle tente de remodeler la sévérité des expressions en une amorce de douceur. Ses longs doigts fins resculptent les contours des lèvres pour entendre le pardon. Je me souviens de la fraîcheur de ses rêves et de la gentillesse qu'elle portait. Loin de là, dans la capitale, elle avait reconstruit sa vie et créé une famille. Le hasard, ou sans doute le destin, m'avait brutalement un jour rappelé à l'histoire. Tous dans son village connaissaient ce drame, à part moi. Je vis probablement entourée de secrets. Je compris enfin, bien longtemps après sa mort, le désir et la force qu'elle avait mis sa vie durant à nous tenir éloignés de ses racines.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Mais de quoi peuvent bien parler quatre femmes nues? De leur forme? De leur régime peut-être? Well, the stars are out
in force tonight. Chaque mardi, nous nous retrouvons à Central Forum pour une rencontre détente au hammam. J'aperçois la blonde Christelle, toujours aussi dodue. Je suis sûre qu'elle va nous bassiner avec ses régimes. J'avance vers Astrid, refaite de partout, pour lui faire la bise, mais elle a encore un pansement sur le nez. Je n'ose la toucher. Ah tiens, voici Annabelle et son petit ventre rond. Son petit bibou pousse allègrement depuis 5 mois. Nous enlevons nos serviettes, dévoilant nos rondeurs, et, l'air de rien, nous prenons place dans le bain vapeur. La buée chaude, enrichie d'huiles essentielles, nous enveloppe, s'insinue, nous dégouline sur le corps. Quel pur plaisir! Astrid se frotte énergiquement les membres avec un gant pour détacher ses peaux mortes. « Faites comme moi, dit-elle avec enthousiasme, votre peau se régénère. » Mais nos mines dégoûtées la dissuadent de poursuivre. J'entreprends alors mes amis sur l'élimination des toxines et les bienfaits des potions de Saint-Hildegarde, moniale du XIIe siècle. Non, je ne vais pas me lancer dans un cours d'histoire, mais toi, Annabelle, connais-tu la mandragore, une plante magique pour le corps, le fenouil qui rend joyeux, le pyrètre d'Afrique qui donne une saine intelligence et la réglisse, un esprit suave, l'hysope éloigne la tristesse, l'élixir de scolopendre fait du bien au foie, et la cendre de prunier favorise la pousse des cheveux. Enfin, le parfum de rose apaise la colère. Venez à la maison, je vous ferai le gâteau du bonheur, avec de la cannelle, de la muscade et des clous de girofle, qui sont les épices de la joie. Christelle, sceptique, me lance. Je n'en crois pas un mot, moi. Je suis des régimes draconiens. Tiens, le Ducan, c'est simple. Tu supprimes tout, sauf les protéines et les légumes verts. J'ai perdu 8 kilos en 4 mois. Bon, j'en ai repris 11, mais je suis coupable car je me jette sur toutes les sucreries. Cela apaise mes angoisses, surtout le chocolat. J'ai vu sur le site docteurbonnebouffe.com que ce régime hyperprotéiné entraîne des troubles digestifs et une fatigue chronique liée à l'absence de fruits. Remarque, je prends des vitamines en pilule pour compenser. N'est-il pas plus sain de manger plutôt les fruits ? Rétorquai-je avec bon sens. J'en profite pour sortir une pomme de mon sac et vanter les mérites de la pectine. Je me tourne alors vers Astrid qui n'a plus de forme. Regarde-toi, Astrid, tu t'es fait réduire les seins, ligaturer une partie de l'estomac, effacer tes rides d'expression. J'espère que tu te sens mieux. Vraiment, tu n'es plus la même, on dirait un zombie. Tu as un petit air figé qui m'inquiète. Et tu vois maintenant, tu es obligé de voir un psy. Ces docteurs marchands de rêves et de jeunesse éclatante sont une fabrique à te pomper ton argent, crois-moi. Tu me donnes l'impression d'en avoir jamais fini à te faire raboter le corps. Chers amis, assumons nos rondeurs. Les femmes peintes par Rubens incarnent la beauté de modèles bien en chair, soyeuses et féminines. Admirez les sculptures de Camille Claudel et celles des causeuses. Je ne me lasse pas de leurs courbes avantageuses et sûres, elles me décomplexent. Aussi, respirons la joie de vivre en bonne santé et ne nous plaignons pas pour quelques replis du ventre. Nous vivons une époque stressante où nos modèles sont des mannequins anorexiques. Mais allez interviewer les hommes sur la question. Ils détestent les maigrichonnes. De là à aimer les obèses, d'accord, ils n'en sont pas encore là. Avez-vous remarqué, ajoutai-je, que Marie-Lou Berry est à l'aise dans ses 100 kilos devant les caméras? Une série récente, très regardée sur le petit écran. Elle dénonce la ségrégation à l'embauche pour les métiers vitrines, défend l'image d'une grosse qui finit par assumer, mais uniquement parce que son compagnon est gros lui aussi. Il leur faut s'assembler pour se donner du courage face aux minces. Les esprits ne sont pas prêts à accepter cette différence. Et cela commence dans les cours d'école, comme le souligne le film. Nous soupirons d'un même élan. Tout à coup, la porte du hammam s'ouvre sur un homme égaré, tel Actéon, le célèbre chasseur dans la mythologie, surprenant la déesse Aramis et ses nymphes dans leur plus simple appareil. Chauve et replé, ce curiste ne paraît pas menaçant, mais il n'a pas son entrée chez les dames. Malgré nos glapissements, nous n'avons pas le pouvoir de le transformer en cerf pour qu'il soit dévoré par ses chiens. Les mœurs étaient tout de même barbares dans la tragédie grecque.
De quoi peuvent parler quatre femmes nues ? D'amour, bien sûr.
Habituée à la chaleur de la première salle, je pénètre alors dans la seconde salle du hammam. Grande pièce rectangulaire, chargée d'une vapeur dense. Des carreaux de faïence bleutée recouvrent les murs et de petits ronds de verre convexes laissant passer la lumière naturelle parsèment le haut plafond voûté. Ambiance feutrée et apaisante. Je m'assois discrètement sur la pierre chaude. L'air est saturé d'humidité. Il m'est difficile de respirer. J'observe autour de moi des femmes se reposant ici dans la pénombre, là se nettoyant la peau, ou discutant entre elles. Un groupe de femmes installées sur la dalle voisine m'attire particulièrement l'attention. Leurs chuchotements deviennent de plus en plus animés. Elles bougent beaucoup, parlant dans tous les sens. Leur corps transpire abondamment. Des gouttes de sueur perlent sur les corps dénudés. Une jeune femme revêtue d'un bandeau sur la tête se lève face au groupe et face à moi par la même occasion. Son visage anxieux dénote avec l'atmosphère du lieu.
« Écoutez-moi !»
Un silence. Puis interloquées, les trois autres se rapprochent de la femme au bandeau. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»«
Je me marie dans une semaine. »«
Oui, on est toutes excitées !»«
Moi, je trépigne d'impatience. Je suis vraiment heureuse de t'aider à l'organisation de ce bel événement. »
Tu sais, tu n'étais pas obligée, Esther. Je ne t'ai rien demandé.
Oui, je sais, mais cela me fait plaisir. Et tu verras, il y aura toutes sortes de surprises.
Bien justement, j'en ai une de surprise.
Vraiment ? Toi qui es toujours prévisible, il faut croire que le mariage te transforme. Mais pourquoi prends-tu cet air grave ?
Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire.
Ne t'inquiète pas. C'est normal à quelques jours de ton mariage. Comme je te l'ai dit, tout ira bien. J'ai tout prévu. Tu auras même droit à un super groupe de musiciens. C'est le groupe de mon mari qui est lui-même musicien. Bon, il est très occupé ces temps-ci, on se croise beaucoup, mais il m'a promis qu'il assurerait ton mariage.
Il ne s'agit pas de ça, Esther.
Un rayon de soleil plus intense transperce à ce moment précis la pièce, comme pour les mettre en lumière. Je ne vois plus qu'elle. Comme ces femmes, je tends un peu plus l'oreille et apaise ma respiration pour bien entendre ce qui va se dire.
En fait, j'ai un secret à vous révéler.
Toutes se pressent les unes contre les autres afin d'être au plus près de la détentrice du dit secret. Cette dernière se penche sur les visages avides de ses amis, la main à la bouche, comme pour être la plus discrète possible.
Je ne sais comment vous le dire. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un.
La condensation épaisse flotte autour des jeunes femmes. Le trouble se propage. Comment ça ? As-tu un amant ? À l'instar des murs ruisselants d'humidité, et malgré son bandeau sur la tête, de grosses perles de sueur apparaissent sur le visage de la future mariée.
Eh bien, je suis allée à un café-concert il y a un mois.
Et
c'était plutôt sympa, très bonne musique et bon musicien.
Ah oui ? Quelle sorte de musique ?
Mais enfin, Esther, ce n'est pas le sujet.
Du jazz, je crois.
Ah oui, comme mon mari.
Oh, ce n'est pas le sujet.
Ok, tu peux reprendre, excuse-moi.
En fait, j'ai sympathisé avec l'un d'entre eux.
Tu l'as revu ? Il est comment ? Mais à quoi il ressemble ?
Tu as vraiment un amant, alors ?
Alors oui, je le revois régulièrement. Il est vraiment sympa, grand, brun. Son béret sur la tête lui donne un air irrésistible.
Oh, le béret ! Comme mon mari.
Esther, s'il te plaît.
Et ses fleurs, chaque fois des roses blanches.
Comme mon mari.
Bon. Si on pense bien tout ce que l'on est en train de penser, une petite vérification de prénom apaisera les esprits.
Marc.
Mais Esther, enfin, toi qui interromps en permanence, tu ne dis rien ?
Qui ? Mon mari s'appelle Marc. Et je crois que tant de similitudes ne sont plus un hasard. Tu couches avec mon mari, sale garce !
Au moment même où une jeune fille passe devant le groupe en furie, Esther prend un seau rempli d'eau froide et le déverse ardemment sur la future mariée toute sanglotante. Comme une tornade, elles se retirent toutes dans les vestiaires pour régler leur compte. J'en reste estomaquée. Moi qui me disais que le hammam était un lieu propice à la détente. Dans un autre recoin de la pièce chargée de vapeur, la jeune fille rejoint son groupe d'amis. Le cercle se referme sur elle. Je ressens comme une agitation grandissante. Oh non, ça ne va pas recommencer ?
Venez d'entendre successivement Causerie de Jean-Luc Tonazzi, dit par Sylvie, Marie-Jeanne, Dominique et Julie. Les Pipelettes de Bernard Ziller, dit par la compagnie Les Voluptueuses. Murmure de Daniel Lesseau, dit par elle-même. Les Causeuses de Central Forme d'Elisabeth de Villedon, dit par elle-même. Secret vaporeux d'Estelle Clavreul, dit par elle-même, Cécile Adrzinski et Caroline Lancio. Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Voix, Marie-Jeanne. Réalisation technique, Dominique Bernard et Luc Richard.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.